Ciao. Bonsoir, chers auditeurs. Merci de votre patience. Nous sommes de retour après deux semaines pour le débrief avec Samuel Rasmussen, de retour en pleine santé.
Mais là, ils m'ont vu le mercredi, là. C'est assez, là, une fois par semaine.
Oui, non, mais il y a le live puis il y a le débrief. Il faut faire la séparation entre les deux. C'est pas une pâle copie quand même. Il y a quand même certains points spécifiques.
Excusez, il fallait que je ferme pour ça que ça me déconcentrait. Mais c'est ça, moi j'ai le luxe d'avoir quand même deux lives. C'est déjà plus que je suis toujours en direct.
Là, je sais même pas encore qui c'est que ça. T'sais, je sais que c'est moi qui le host cette semaine, puis la semaine prochaine sans doute aussi, mais je sais même pas qui j'invite. Ben, parce que techniquement, il y a comme une rotation. Fait que tu sais, la semaine passée, c'était toi. Est-ce que. Je sais pas. Ouais. Oh, c'est vrai, ça serait le tour à Vincent, ça veut dire?
Ben, je peux revenir quand vous voulez, moi.
Non, pas que je t'aime pas, Sam, là. C'est juste que
ben non, c'est ça. Simon est allé. Vincent.
La rotation. Ça fait que ce serait le tour à Vincent. Joey et Vincent. ça, c'est de quoi qui est pas arrivé souvent.
Ben oui, ben tant mieux. Ben pourquoi pas? Ça fait. Ben oui. Le monde disait, Vincent pis Sam, ça va être bizarre. Écoute, on était très disciplinés. Les auditeurs peuvent en témoigner. On a passé par-dessus toutes les questions Patreon. On a bien fait ça.
Ouais, je pense qu'en focusant ces questions, ça va bien, parce qu'autant que Vincent, je l'apprécie, mais moi tout, il y a une raison pour que vous ne me voyez pas souvent dans le trio économique. Hein. Pas parce que j'aime pas l'émission, je trouve que c'est une émission qui a crissement du bon contenu, puis c'est intéressant. C'est juste que je connais mes forces puis mes faiblesses.
Ben oui, un peu d'humilité. On peut pas être bon dans tout, bien sûr.
C'est ça, autant que j'ai une base en économie comme tout le monde, mais je sais que j'ai pas...
Comme tout le monde.
Mon opinion n'a pas tellement plus de value qu'un autre, fait que c'est plus pour ça. Mais revenons à notre sujet, on dérive déjà.
Justement.
Ce soir, dans le débrief, on parle de retraite et de richesse, et en fait du mythe de la potentielle richesse et de la retraite pour les jeunes générations fringants comme que nous sommes. Ça se peut que ça soit un peu de la bullshit, ou du moins de notre rêve des lendemains qui chantent sont pas mal plus dans notre tête que dans la vraie vie, si on pourrait dire. Fait qu'on parle d'un article que Sam m'a envoyé, il a amené son sujet, Grand transfert intergénérationnel, un article du Journal de Montréal qui est assez intéressant, sérieusement, puis que je suis capable de relayer à certains égards aussi à ce sujet-là. Fait qu'écoutez, on part ça ce soir, ce débrief, donc je le déclare officiellement ouvert. Yes.
Oui, en effet, c'est un article que j'ai pas sursauté, mais du moins qui m'a fait dresser le sourcil d'un bord. En fait, beaucoup de contradictions se fait dans cet article-là. C'est signé Gabriel Côté pour le Journal de Montréal, mais c'est pas tant le chroniqueur ou du moins le journaliste, celui qui écrit l'article qui est dans la contradiction, mais l'interférence de plusieurs artistes. quel lapsus. Experts. Bon, on voit ici peut-être une avocate spécialisée en transfert intergénérationnel de Desjardins. Il y a un notaire là-dedans. Ça me fait loucher un peu. En fait, j'ouche tout le temps, mais plus que d'habitude. Donc, est-il prudent de compter sur ses héritages pour planifier sa retraite? Bon, Maître Dominique Bigra parle donc des risques et des stratégies pour une planification financière autonome et sécurisée.
Le frère de Dan?
Oui, c'est ça. Je sais pas si elle a une sarbacane, mais...
Je l'avais oublié, celle-là.
Oui, il y en a d'autres qui l'ont oublié.
Fou!
Je sais pas si on peut faire une sarbacane avec du didgeridoo, mais ça, il y a un autre inside, bref.
Ta fléchette va être grosse en calvaire, c'est large, un didgeridoo.
Ben, pas tant, le trou est pas si large. En tout cas, on pourrait avoir des très mauvais jeux de mots là-dessus.
Ouais, c'est ça, on s'écarte déjà. Mais vas-tu que j'en ai dit un autre encore?
Mon Dieu, c'est épouvantable. Énorme.
C'est pas long pour déraper ici. C'est vraiment pas long.
Dérapage épouvantable, la vulgarité. Mais c'est ça, c'est qu'au final, c'est enchevêtré dans la lecture que j'ai faite de l'article, un peu tout ce qui se trouve, hein. Bon, les boomers, l'héritage, l'absence de prévoyance, non pas d'une génération plus qu'une autre. On ne va pas casser du sucre sur une génération plus qu'une autre. Il y a des boomers qui sont très riches, il y a des boomers qui sont pauvres. C'est une question aussi de culture familiale plus que générationnelle. Alors, dans ce j'ai pris des notes, là, cet effet, on parlera de Scott Galloway aussi.
Oui.
Joey m'a envoyé quelque chose de très intéressant là-dessus. Mais bon, c'est que l'article aborde le phénomène du grand transfert intergénérationnel. Richesse entre les bébés-boomers vers les jeunes adultes, c'est-à-dire, je dirais, la fin des X, le début des Y, possiblement les Z. Donc, on souligne ici le danger de compter sur l'héritage pour planifier sa retraite. Et donc, là, on parle de notaire. On parle... Ça a l'air plate, mais c'est sûr que c'est plate. Mais si on ne prévoit pas, ça risque d'être encore plus plate. Donc, si on ne va pas parler non plus de conseils juridiques, mais vous ouvrez une entreprise, vous êtes jeune, vous êtes vieux, modifiez votre testament en conséquence. Peu importe la façon dont vous le faites, que ce soit holographe, que ce soit devant témoin, que ce soit notarié, c'est très important. Vous avez un patrimoine, vous êtes jeune, vous êtes riche, vous êtes pauvre, vous êtes vieux, le testament vous évite beaucoup de problématiques au final. Vous en allez faire un voyage, même si vous avez planifié tout le côté des assurances, c'est important, le côté du testament.
Là-dessus, je plaide coupable, j'en ai pas encore un. Il va falloir que j'en fasse un jour. J'arrive à mes 30 ans, je pense que je suis pas mal dû.
Oui, à tes 30 ans, on va t'offrir un cercueil et puis un testament devant témoin au final.
Non, on va commencer avec le testament, parce que le cercueil, ça coûte déjà un bras, là.
Ouais, tu peux le louer puis leur donner à une génération après 99 ans.
Louer, disait l'autre.
Ben oui, pourquoi pas.
Juste avant qu'on le mette dans le trou, il ouvre le cercueil et le sac dedans. Puis
oui, ça va être rendu ça à cette heure. On va être juste propriétaire dans la mort, justement. On a parlé de ça.
Après l'aquamation, c'est quoi ça? C'est de la terramation? Je sais pas.
La location.
Ça, c'est littéralement ça.
Fait que tu sais, bon, l'argument que je souligne là-dessus, c'est qu'en voyant l'article, bon, compter sur l'héritage pour la planification de la retraite, c'est à peu près beaucoup risqué. Donc, on peut considérer ça un peu une forme de déresponsabilisation. Vous voyez un peu mon fétichisme, mon obsession pour la déresponsabilisation individuelle. Donc, dans la question de la gestion personnelle des finances. Donc, on pourrait prôner aussi bien dans un renversement de culture, que ce soit l'autonomie individuelle, la responsabilité individuelle personnelle, pour valoriser l'initiative privée et la liberté économique. Mais ça ne se fait pas comme ça. On est toujours dans une culture d'interdépendance. Donc, on est dans une culture de dépendance, de transfert de richesses intergénérationnelles, où ce qu'on attend justement que le... C'est assez curieux comme approche, comme article. Je me suis dit, en quoi on va mystifier cette idée-là qu'une génération... On doit attendre après nos proches pour qu'ils décèdent, pour avoir accès à un patrimoine. Ce qui est assez particulier dans l'article, c'est qu'il y a plusieurs contradictions. Donc, non seulement, bon, il y a une large partie de la population qui n'a pas fait de l'épargne, voire moins de 25% auraient eu accès à une épargne ou du moins peu placée de côté. On sait que les Québécois, les Canadiens, côté épargne, ça va pas bien pour le consommateur. Hein? D'une part. Et là, ça dit quasiment que, ah oui, mais on va donner jusqu'à 900 000 en termes de testament. Attention, là, je sais pas à qui s'adresse cet article-là, à des boomers très...
On parle en moyenne, ou...
Oui, en moyenne.
Ben, je suis plus ou moins surpris parce qu'on va en parler plus tard de Scott Galloway. Pour ceux qui se posent la question, c'est qui Scott Galloway? C'est lui que j'ai présenté le montage il y a quelques semaines du gars de MSNBC dans l'INF Frank, version Patreon pour les abonnés par contre, sinon vous ne comprendrez pas d'où c'est que ça sort. Puis il expliquait justement qu'il y avait vraiment eu un transfert, puis on le voit aussi, vraiment un transfert de richesse des générations plus vieilles aux nôtres et que le fait que justement les avenants de l'économie et des politiques ont vraiment davantage avantagé les boomers et les générations plus vieilles que les nôtres. Puis on le voit, là, c'est ce qu'Éric Duhem écrit dans son premier livre. Là. L'équité intergénérationnelle est vraiment cassée, la classe moyenne est en train de disparaître littéralement, c'est que soit tu es super riche ou tu es super pauvre. C'est pas juste au Québec, super riche. C'est pas juste au Québec, c'est partout en Amérique du Nord et également ailleurs aussi dans le monde. Puis en gros, ce que l'article parle, de ce que Sam parlait tout à l'heure, c'est carrément ça, c'est que rendu à un point que les jeunes voient tellement les premières barres de l'échelle pour se faire une cagnotte. Déjà, on le sait, on en parle tout le temps dans l'actualité dans Yann et Frank, à quel point on nous taxe partout, puis on nous impose partout, puis une nouvelle ci, puis une nouvelle ça. Il n'y a aucun endroit où se réfugier pour au moins économiser un peu. Ben, les générations de 30 ans et moins, ils regardent
c'est l'économie
ça,
de la misère. C'est l'économie de l'assistanat, et non pas du volontariat.
Puis ils voient, ils disent, ouais, finalement. Je vais être peut-être capable de toffer jusqu'à ma retraite, tu sais, mais pas avec une grosse cagnotte, mais ils espèrent justement que ce soit justement l'héritage de leurs parents ou de leurs grands-parents qui leur fasse justement planir leur retraite, parce qu'à date, ils n'ont pas grand argent à mettre de côté pour ça. Là.
Exactement. Puis c'est une question, là, la sécurité financière, ça va avec les investissements, l'épargne. Bon, est-ce qu'on peut avoir de l'épargne quand on est pauvre au final, ou du moins? Ça prend une éducation, ça prend une culture. Je ne parle pas d'instruction, je parle d'éducation. Que ce soit dans le milieu familial, mais on s'entend qu'il y a un facteur déterminant. Si vous venez d'une classe plus... C'est quasiment de la dialectique, du matérialisme dialectique, dans l'occurrence où vous êtes quasiment déterminé par la condition de classe ouvrière versus de classe bourgeoise. Pas ça. Mais il y a quand même un aspect déterminant dans cette culture-là. De vous faire de l'épargne, l'espèce de petit cochon. Vous vous souvenez, le petit cochon qu'il fallait casser, mais il n'y avait pas de petite trappe à l'époque. Il fallait le casser. Il fallait le casser qu'on en avait réellement besoin.
Non, alors, il n'y avait pas de bouchon en dessous.
Il n'y avait pas de bouchon, c'est ça.
Il y avait juste la fente.
Il y avait juste la fente, exactement. Et ça suggère qu'une éducation générationnelle, je ne parle pas en termes de génération, mais qu'une génération doit enseigner à l'autre. Écoutez, là, nous autres, on a travaillé fort, etc. Ben, on espère que la génération qui va nous suivre, que nos enfants vont vivre plus dignement. Ben, c'est quasiment mourir dignement, mais d'essayer d'être plus confortable, d'avoir de partir du meilleur pied que lorsqu'on était jeune, quand on n'était pas encore parent. Alors, c'est pas tellement ça, parce que dans une société où on se déresponsabilise, forcément, la culture du... C'est à la semaine, et c'est pas plus grave que ça, mais quand on a 20 ans, 30 ans, on voit pas la mort, on voit pas la vieillesse, on voit pas l'impotence arriver, bien naturellement. Mais il y a d'autres qui magasinent. Est-ce qu'on a vraiment le temps de magasiner son assurance, magasiner son notaire, magasiner? On magasine beaucoup, où on prend la première chose qui vient, ah, un de mes chums, des assurances, on va pogner là-dessus. Mais c'est T'sais, on a le temps, par contre, de magasiner un cellulaire, magasiner sur Amazon. C'est sûr, c'est plus le fun, un cellulaire. C'est plus le fun, Amazon. Mais...
Surtout quand tu le changes à l'année et il coûte 2000$, là, ça, c'est merveilleux. Moi, puis je peux vous le dire, j'en ai vendu des selles. Puis des clients qui, à chaque année, ils changeaient pour leur nouveau iPhone, là, alors que les fonctionnalités, c'était 3-4 pixels de plus sa caméra, puis une petite affaire guguste de par rapport. Là. Ah non.
Oui, justement.
C'est un peu frivole, puis tu sais, je dirais pas que c'est générationnel. Peut-être qu'il y a une hausse de la société consumérisme dans les dernières décennies, mais le côté frivole et tu sais, de carpe diem, un peu, tu sais, il n'y a pas de lendemain. Tu sais, on est jeune, on pense tellement que la mort, justement, puis la fin est tellement loin qu'on en profite, tu sais, puis regarde, I plead guilty. Je plaide coupable, sûr. Littéralement.
Quand on est jeune, on n'a pas cette peur-là. On est, d'ailleurs, neurologiquement, le cerveau frontal n'ayant pas été formé dûment jusqu'à 23-24 ans, c'est là où on prend le plus grand risque. Hey, un ado va faire à peu près n'importe quoi en char, etc. Pas tout le temps. Mais il y a une impulsivité due au fait de la croissance qui n'est pas tout à fait complète du côté du lobe frontal. On n'ira pas trop en neuropsychologie, c'est pas quand même mon expertise. Mais c'est un fait avéré. Alors, la prise de risque ne se passe pas quand vous avez 55 ans, vous avez 60 ans. C'est là où vous avez peut-être moins de prise de risque comparativement. Vous êtes dans une culture de, bon, là, j'ai assez travaillé, c'est le temps que je puisse me nourrir dans mes épargnes et que je puisse passer à la retraite. Est-ce qu'on va connaître ça, notre génération? Est-ce qu'on va connaître la liberté 55 ou 65? J'en doute fortement, du moins si ça continue comme ça. Sans pour dire les jeunes en arrachent par rapport aux vieux. Ben, le coût de l'éducation supérieure n'a pas tenu compte du marché. Donc, en même temps, même si au Québec, on ne paye pas énormément comparativement aux autres provinces canadiennes puis aux États. Elle n'a pas tenu compte de ce marché-là. Donc, on n'a jamais été autant diplômé de l'histoire du Québec. On n'a jamais autant peu fait de choses avec ce même diplôme-là. Notamment parce que cette génération-là a dû se balancer entre l'approche généraliste, c'est-à-dire qu'il faut que je touche à tout, et l'approche extrêmement précise. C'est-à-dire, on a beau rire là, des fameux diplômes, un certificat en art médiéval du 14e siècle italien.
Ben, mais bon, je respecte beaucoup plus ça qu'un diplôme en études du genre, en tout respect. Là.
Ouais,
je respecte beaucoup plus l'art médiéval.
C'est pas pour rire de ça, c'est plutôt que c'est excessivement pointu. Ça,
oh, ouais, c'est ça.
L'approche biomédicale de tel lobe. Au niveau de l'investissement en santé mentale et dans les infrastructures sociales, d'ailleurs, c'est ce que Galloway parle. Justement, que ce serait une chose assez importante, mais ça se fait aussi à l'intérieur des enceintes, des écoles, des universités, des collèges. Précarité de l'emploi, ben, OK, parfait, on est presque au plein emploi, il pleut de la job, peut-être pas dans n'importe quoi, mais comme les diplômes ne correspondent pas vraiment à la réalité du travail, ben, c'est un peu comme vous avez 35 ans, ça vous prend quand même 35 ans d'expérience. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le mème, là, mais c'est un peu ça. C'est que cette précarité-là, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de postes vacants dans les McDonald's, les Tim Hortons. C'est rendu qu'à Sherbrooke, c'est rendu qu'à Saguenay. On ferme les bâtisses à 11h, c'est fini. J'ai jamais vu autant peu de restaurants de 24 heures sur 24. Pourquoi? Ah, ça doit être que les jeunes sont trop paresseux. Non, c'est que les jeunes ont vu... Ceux qui ont goûté à l'industrie, au troisième secteur, c'est-à-dire le secteur des services, et ont vu à quel point, si tu oublies ton cornichon, tu te fais traiter de taré, et la pression, etc., etc. C'est pas que les jeunes sont plus douillets, c'est qu'ils ont déjà goûté à trois autres générations avant eux.
C'est ça, puis il y a un peu un genre d'effet circulaire de tout ça, de genre de cercle vicieux, parce que d'un côté, t'as « OK ». Oui, il y a de la job à côté. Fait que si vous voulez vous trouver une job, il y en a. C'est pas ça le point. Mais autant qu'il peut y avoir certains qui ont des salaires assez intéressants, mais le coût de la vie et plein d'autres, justement, comme on parlait tantôt, la surtaxe, puis là ci, puis là ça, puis la mentalité de toujours en rajouter sur le dos des citoyens, puis tout ça, fait qu'en bout de ligne, tu peux. T'en perds pareil. Le surplus que tu avais dans ton salaire dit compétitif, mais il est de moins en moins compétitif. Fait que toi, d'un côté, t'essaies de survivre, t'as tes besoins de primaire, t'as te nourrir, te loger, te vêtir, whatever. Et en même temps, la société, puis ça, c'est plus mon analyse à moi, la société est rendue tellement... On est tellement dans un mood, je parle pas juste au Québec, là, mais je parle en général, tu sais, qu'on... C'est dur, là, on n'est pas dans les 30 glorieuses, là, on est vraiment dans une période assez dark, faut le dire. Là, on n'est pas on est peut-être dans le creux de la vague, nous dirait-on. À un moment donné, c'est ça, le retour du balancier va se produire, mais on n'est pas dans la plus grande période. On parle des problèmes en santé, on parle des problèmes en éducation, on parle quasiment que tout s'effondre partout, puis qu'on a des mères qui nous parlent d'environnement pendant ce temps-là, puis l'éco-anxiété pour ceux qui embarquent là-dedans, puis whatever. Fait que puis la crise, justement, les crises en santé mentale qui skyrocket, ben des gens, justement, qui ont des problèmes de santé mentale, qui cherchent à avoir du bonheur, ben souvent, dans la société qu'on est, puis de la manière qu'on a été élevé, ben le bonheur, souvent, ben tu l'achètes.
Ah oui, l'accès au bonheur, c'est aussi d'être confortable et de dire, maintenant, j'ai le luxe de m'asseoir en disant, je peux me poser des questions. Mais c'est quand tu es dans le secteur, tu travailles avec ton cerveau, tu arrives à la fin de la journée, tu as une fatigue mentale. Mais tu réfléchis quand même à ton destin.
C'est ça. Puis le problème, je vais terminer là-dessus, c'est que le problème, c'est que justement, sachant que le coût de la vie est excessivement cher, que ton avantage monétaire est réduit à cause de la quantité de taxes, puis de trucs, puis du coût de la vie, de l'inflation, name it, t'as assez de cash pour te faire vivre, puis de te loger, whatever. Mais normalement, pas que t'es pas brillant, mais normalement, la logique la plus pure à faire, si tu veux toffer, puis de t'en regarder un peu de côté, c'est quasiment pas dépenser dans les loisirs. Ou d'aller, mettons, je sais pas, au cinéma, ou aller voir un show, peu importe. C'est vraiment de limiter. Peut-être plus d'être dans les petits plaisirs, de la simplicité volontaire. Mais le problème, c'est que pour bien des gens, le mood est tellement plate que la seule manière de ce qu'on appelle le escapism, de t'échapper, d'avoir un moment de fun, c'est justement ces dépensés, que ça peut être de la bouffe, ça peut être quelque chose sur Amazon.
Des choses à court terme dans un monde où ce que justement le long terme est très...
C'est ça, ça fait le cercle vicieux, que là tu es encore plus pauvre, puis tu n'es pas capable de t'en sortir, puis c'est ça, c'est infini, là, c'est comme la laveuse.
Et c'est ça, mais je, sans trop citer le sociologue de gauche Guy Debord, l'international situationniste, la société du spectacle. Bon, je suis pas d'accord nécessairement. Je suis d'accord avec certaines prémisses de ce monsieur, mais que justement, tu sais, t'as une certaine part du divertissement qui arrive. C'est tant mieux. Au moins, on n'a jamais pu autant choisir notre divertissement, mais ça reste quand même du court terme. On n'a jamais pu avoir. On n'a jamais eu autant de pertes au niveau de la stabilité économique. Juste l'accès à la propriété, je vous apprends rien. L'augmentation des prix immobiliers rendu l'achat des logements, l'achat des maisons à des prix qui sont complètement déraisonnables, alors que les boomers avaient pour je dirais même presque la moitié de leur salaire à quelques endroits, accès à une petite propriété. Maintenant, c'est un bungalow avec quasiment de la moquette à Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun. Tu vends ça à 150, 200 000. Puis encore. Puis en même temps, il y a des jeunes qui essayent d'être entrepreneurs qui ne fitent pas dans ce cadre de salarié ou du moins d'être dans un travail de bureau. Donc, tout ce qui est au niveau de l'adaptation du changement technologique, si vous comparez The Greatest Generation, ceux qui ont vu bateau à vapeur arriver quasiment, les silencieux jusqu'à 1946, les boomers, etc., etc., même les X, notre génération, du moins ma génération, les Y, le début des Y, on n'a jamais vu autant de technologies aussi rapidement que même la génération dans laquelle s'est fait cette démocratisation d'Internet-là, c'est pas tout le monde qui est versé là-dedans.
Mais on a été bénis, Sam, parce que notre génération et nous autres a eu le cadeau d'avoir connu le avant. Autant l'Internet était là un peu avant que j'arrive, mais tu sais, l'Internet à haute vitesse, les cellulaires, les iPads, les applications, puis les MSN de ce monde dans le temps que c'était sa seule manière de jaser. Fait qu'on a vu ça arriver, mais moi, je les ai connus, les cassettes VHS. Je les ai connus quand t'appelais à la maison, puis quelqu'un était sur Internet, tu pognais à la ligne du fax. Tu sais, tandis que. Là, je ne vais pas faire mon âgisme ici et mon vieux bonhomme de 29 ans, là, mais tu sais, sachant qu'on a des générations aujourd'hui qui naissent avec une tablette dans les mains et qui n'ont rien connu d'autre que l'instantanéité. Et moi, quand je me revois.
C'est pareil.
Je me revois dans la cour d'école au primaire puis je me suis dit, hey, si j'avais eu un cellulaire ou un petit cell avec des applications, comment ma vision de la vie aurait été différente? Comment j'aurais agi différent? C'est à quel point c'est physiologique, puis à quel point ça moule l'esprit humain, surtout en croissance comme un jeune enfant comme ça. Fait que on a été chanceux vraiment de connaître l'avènement de ça, mais qu'au moins on a vu le avant. Mais le problème, c'est que quand tu es déjà dedans, tu peux pas savoir ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait de mieux. Tu peux pas le comparer. Fait que nous autres, je pense qu'on peut le dire, c'est qu'on a vraiment la vision des deux mondes. Fait que...
J'ai fait un petit esquisse sur la neuropsychologie, là, notamment avec le cerveau frontal. Je ne sais pas s'il y a une étude là-dessus, là, vous m'envoyez, désolé. Là, je ne suis pas un neuropsychiatre, je ne suis pas un neurochirurgien, je ne suis pas un neuropsychologue. Mais j'aimerais ça trouver la différence.
Ceci n'est pas un conseil neurologique.
Ceci n'est pas un conseil, c'est ça. De voir le développement du cerveau frontal. Je ne sais pas si ça se fait, là, mais on est dans l'expérience de pensée. Là. Entre les silencieux, il faudrait qu'on fasse une étude comparative de comment ces jeunes cerveaux-là ont pu développer leur cerveau frontal, en l'occurrence avec différents stimuli. Mmh. Les jeunes arrivent, j'allais dire au pouvoir, c'est pas tout à fait ça, là, mais arrivent en vie, arrivent en ville, pour ne pas le dire aussi, avec des lumières de toutes sortes de magasins, de toutes sortes. Ça a l'air presque que ésotérique, ce que je dis là, ou spirituel, mais c'est ça, c'est que le moyen de se stimuler aujourd'hui est de plus en plus à court terme et de plus en plus artificiel.
Instantané.
Ben c'est ça. Et en même temps, tu disais quelque chose d'intéressant là, au niveau de « on a connu l'avant », mais c'est parce que nos parents ont fait en sorte que « ben, va jouer dehors, va te construire une cabane,
Il nous faisait confiance de partir en dehors de la maison toute la journée sans même nous demander où c'est qu'on était. Puis on n'avait pas de sel dans ce temps-là.
Hey, on faisait des feux.
Fait qu'à part gueuler à plein poumon dans le quartier puis en espérant que t'entendes ta mère parvenir, ben, too bad.
Ben, le changement de culture au niveau des parents aussi. Bon, les parents, étant donné qu'ils ont moins de temps de s'occuper de leurs enfants, ou du moins prennent moins de temps de s'occuper de leurs enfants, essaient de trouver des moyens de mettre la faute sur l'autre. Demande à ton père, demande à ta mère. Puis au final, on essaie quand même de les surprotéger. C'est quand même assez curieux, hein?
Ben, puis Yann en parlait avec Jeff aujourd'hui de la vision des deux familles divorcées, parce que justement, dans le principe d'éducation d'un enfant qui parlait souvent, c'est sûr que les parents ne doivent pas, comme tu le dis, se contredire. Quand il y a une vision, il faut qu'un appuie l'autre et vice-versa. Mais quand tu as des parents séparés, que chacun tire la couette de son bord dans l'éducation de l'enfant, le père lui dit « fais pas ça », la mère dit « fais ce que tu veux », c'est faire du surplace, là. C'est quasiment faire du sprint sur un tapis roulant. Fait que niveau éducation, l'enfant, sachant que le taux de divorce est quasiment le même depuis X temps, puis ça n'arrive pas en augmentant, c'est spécial, non?
Je pensais à quelque chose aussi, c'est que quand j'avais 14, 15, 16 ans, il n'y avait pas de grands enjeux anxiogènes. Les journaux. Eh ben, non, les grands enjeux.
Je t'agace.
Tu sais, dans on fait un petit clin d'œil à Jérôme Blanchet-Gravel.
Eh oui.
L'affaire étant l'espèce de climato-anxieux, il n'y en avait pas à l'époque. Bon, il y en avait, mais il était réduit à peau de chagrin, c'était une minorité.
Ben, c'était les extrémistes. Il y avait des discours sur l'environnement, mais c'était pas pas dans le saucé comme on est aujourd'hui.
Il y avait du saucé avec Al Gore.
Oui.
Bon, on pourrait en passer. Le point étant, c'est que, un peu comme les publicités politique ne ciblait pas nécessairement les jeunes avec ce genre de choses-là. À cette heure, c'est les enseignants se mettent à avoir le même discours alarmiste. C'est pas sûr. Ce n'est pas sécurisant pour un adolescent qui est bourré d'hormones, qui est dans un contexte où il change, sans dire qu'il change de corps, le bombarder de stimuli anxiogènes. Ben là, ça transparaît justement dans une génération. J'en avais pas ce genre de publicité-là politique à mon encontre quand j'étais adolescent. C'est quand même curieux. Je veux dire, nos jeunes vont arriver au stade où ils sont pas encore sortis de chez leurs parents, sont déjà anxieux de sortir dans leur vie. Pas parce qu'ils sont plus douillets, pas parce qu'ils sont plus caves que les Y, les X, les boomers et silencieux. Pas du tout. C'est la culture qui les... C'est littéralement la culture sociétale qui les malmène. Ils se retrouvent, on dirait, je ne sais pas si ces humains-là, si c'était des oiseaux, seraient capables de voler en dehors du nid en faisant confiance à leurs ailes. Je me pose la question sérieusement. Justement, tu me parlais de notre cher... comment il s'appelle, excuse-moi.
JBG, hein?
Non. Le lien que tu m'avais envoyé, là.
Ah, Scott Galloway?
Ah, Scott Galloway. Ben justement, il disait... J'essaie de chercher...
Mais c'est ça, la vidéo que j'ai envoyée...
Young People's Future, là.
Pour ceux qui connaissent les TED Talks, c'est ça, Scott Galloway en a fait un récemment, puis il est devenu très viral en moins d'une semaine. On parle de plusieurs millions de vues, puis j'ai vu beaucoup de streamers de gaming réagir à cette vidéo-là, alors que ça n'a pas rapport partout à ce qu'ils font, là, mais juste que ça parlait de la génération des plus jeunes, puis il montrait beaucoup de stats. Puis le gars, il est vraiment nonchalant, mais il a un côté vraiment funny, puis il y a des
couilles pour le dire. Oui, c'est intéressant. Ben, regarde, il y avait un article de lui qui dit « Self-made millionaire, following your passion is a bullshit. Do this instead. » Donc, c'est important de suivre ses passions, puis fais ce que t'aimes dans la vie. Ouais, c'est ça. Tu sais, avant, il y avait, là, tu vas faire un bon garçon, puis tu vas aller en droit, cette espèce d'aspect clérical où le jeune était placé directement dans une ligne directrice. Aujourd'hui, c'est « Vas-y, mon homme, amuse-toi, aie du fun, profite de ta jeunesse, sans aucun cadre. » T'entends, là, c'est pas tout ou pas tout non plus, là. Mais dans « How the U.S. is destroying young people's future », Scott Galloway, justement, bon, il nous parle de plusieurs mesures concrètes pour répondre aux défis économiques que les jeunes générations vont subir. Bon, il suggère que les universités utilisent la technologie et l'échelle pour réduire les coûts de scolarité de 2% par an. On peut quand même, c'est du côté américain. Donc, ça augmenterait les inscriptions de 6% par an.
C'est ça, parce que son argument, il a vu littéralement que l'université qui a connu dans les années 80-90, le taux de tuition, fait vraiment le frais universitaire aux États-Unis a augmenté quasiment de 400 quelques pourcents.
Oui, c'est la situation américaine, il faut le dire à nos auditeurs.
C'est ça. Puis lui, il expliquait justement que le taux d'acceptation a été considérablement réduit, puis le taux d'augmentation des frais a quasiment skyrocket. Fait qu'il veut vraiment comme couper ça de moitié, puis recevoir davantage de monde pour que ça devienne justement plus abordable, puis pour plus de gens.
Je suis quand même quelqu'un plutôt libéral, je veux dire, c'est pas. Mais son discours pourrait être tout aussi bien convenir à un social-démocrate. Il parle aussi de la réforme du marché immobilier. Donc, il critique la manière dont les permis de construire sont gérés souvent pour utilisés pour protéger les intérêts des propriétaires existants au détriment des nouveaux entrants. Ça serait intéressant qu'il vienne faire une petite conférence ici, Mr. Galloway, tu sais. Donc, il propose de réduire les obstacles à la construction de nouvelles habitations pour rendre l'accès à la propriété plus abordable pour les jeunes. C'est un peu la même situation ici, des fois pire dans certaines régions. Ça, c'est un autre point. La réforme fiscale et le soutien social, bon, ils préconisent au final une structure fiscale plus progressive avec un impôt minimum alternatif sur des sociétés et des individus fortunés. Donc, un peu comme, sans dire, la flat tax, là, ça ressemble un peu à ça au final. Donc, une réforme de la sécurité sociale, encore là, dans un contexte américain, qui n'est non pas basée uniquement sur l'âge, mais en fonction des besoins.
C'est quand même assez c'est ça, c'est qu'en gros, il dit la Social Security, ça mérite d'être là. Par contre, tu ne devrais pas pouvoir y accéder seulement parce que tu as un cathéter ou parce que tu as plus que tel nombre d'années.
C'est
ça. Il faut vraiment que tu sois dans le trouble pour qu'on puisse t'aider. Et c'est justement, il dit, ça se peut pas qu'autant de gens. Tu sais, en gros, il y a une majorité de gens qui sont sur la Social Security qui ne mériteraient pas d'être là puis qui ont grandement les moyens de vivre dignement sans avoir besoin de ça, mais il tête le gouvernement puis finir. Fait que c'est ça qui va
arriver. Exact. C'est peut-être de balancer une société de, tu sais, je parlais ça, justement, l'assistanat au volet d'une société plus du volontarisme, du volontariat, disons-le comme ça. Parle aussi, j'en ai glissé un mot tantôt, de l'investissement dans la santé mentale, les infrastructures sociales, donc en même temps un peu avec l'aide de l'État. Il parlait notamment des programmes de mentorat comme Big Brother, Big Sister. On a un peu l'équivalent ici, mais c'est pas tant poussé puisqu'il manque énormément de gens dans le bénévolat, curieusement, alors que PSPP veut qu'on fasse du bénévolat pour sa souveraineté.
Mais ça,
c'est pas dans la culture québécoise, le bénévolat.
Bon, mais non, parce que ça, c'est le gouvernement gère tout. Fait que pourquoi je ferais du bénévolat?
À quantité
d'argent que le gouvernement me prend, pas besoin de payer de. C'est pour ça que le taux de dons de charité au Québec est inférieur à la moyenne canadienne, parce que justement, on envoie tellement d'argent partout, puis d'un, on a moins de cash.
Tu disais, la pitié rend le faible encore plus faible, en disant justement cette espèce de. On va toujours être de la compassion, puis on comprend, puis c'est. Cette espèce de. Regarde, Mme Marcotte le dit, le gouvernement, c'est exactement ça. Donc, on va faire aux autres avant qu'ils puissent s'aider eux-mêmes. L'affaire, c'est que cette économie-là de la misère ou cet assistanat, ben, ça fait en sorte que les gens qui n'ont pas nécessairement besoin de cette aide-là, le partage de risques n'est pas équitable. On parle toujours d'égalité, puis c'est important de commencer à la même ligne. Mais au final, ceux qui partagent le risque ne sont pas les mêmes. D'où l'idée de l'abandon de la classe moyenne. Donc, Ça, par contre, c'est un peu plus difficile là, à ce niveau-là, surtout au Québec. Politique visant à encourager la natalité et la jeunesse. Bon. Et qu'il aborde le déclin du désir des jeunes de fonder une famille. C'est bien normal, parce qu'avec tous les coûts prohibitifs et l'absence de soutien, alors c'est assez normal que dans les pays riches, la majorité, en fait, les plus t'es riche, moins t'as d'enfants, c'est un peu comme.
Ouais, puis c'est ça, il expliquait aussi que c'était multipolaire. Il disait que le stat qu'il donnait, c'était en 1993, il y avait 67% des couples hétéros qui avaient au moins un minimum un enfant. Aujourd'hui, c'est genre 24%. Ça a droppé. Ouais. Surtout, autant que c'est ça, que c'est multifactoriel. Ça ne va pas être juste une histoire de, oui, il y a la fin de la richesse, il y a le fait que justement, nos générations ont tendance à avoir des enfants plus tard à cette heure que nos parents. C'est ça.
À cette heure, tu sais, je veux dire. Sincèrement, je ne critique pas les parents d'aujourd'hui. Ben, d'ailleurs, je les salue, je les admire beaucoup, mais comment avoir des enfants si, au final, t'as pas de maison avec des espaces assez intéressants pour que ton jeune puisse grandir, avoir son intimité aussi, on ne le dit jamais assez. La mère puis le père sont toujours quasiment dans les bobettes de leur enfant. CQFD, Dr Mailloux, dans ses interventions, on l'a entendu souvent. Non seulement les enfants sont surprotégés, ce qui perd leurs moyens d'essayer de s'adapter par eux-mêmes, d'essayer de faire un feu sans se brûler, hein, fais attention. Donc, tu perds tes moyens d'adaptation dans un milieu hostile. Et comment tu veux te faire des griffes? Comment tu veux te faire des défenses? Ça, on ne parle pas de l'introjection, mais c'est pas tout à fait ça, là. L'ingérence quasiment sexuelle du père par rapport à la fille, puis de la mère par rapport au fils, c'est de l'histoire du Québec. C'est même peut-être même l'histoire de l'Occident, mais dans les sociétés musulmanes aussi. Je veux dire, une société assez matriarcale au Maghreb, c'est pas vrai que c'est tout l'homme qui dirige, la mère a le bon mot aussi. Donc, l'ingérence du sexe inverse dans l'éducation de leur enfant, ça aussi, ça peut être périlleux si c'est toujours dans l'ingérence. Bon, je m'écarte de Galloway, parce qu'on a fini pas mal Galloway. Donc, c'est intéressant, par exemple, ce qu'il m'a envoyé. Bon, il parle aussi de la limite d'âge et des réformes pour les médias sociaux.
Ah, puis il fait de l'âgisme déclaré face au Congrès américain que j'adore personnellement. Là.
Ben, puis, c'est des têtes grises. C'est des têtes grises. Ça, là.
Il est nonchalant là-dessus, puis là-dessus, je suis d'accord, là, ça n'a juste pas de bon sens. L'argument, c'est pas qu'il n'y ait jamais de vieux en politique, c'est qu'il n'est juste des vieux, c'est qu'il s'est incrusté de problème. On voit que c'est
les partout, jeunes retournent vivre chez leurs parents pour pouvoir ramasser de l'argent pour avoir accès à la propriété un jour. C'est vraiment triste comme situation. Tout à fait, Karine, c'est tout à fait vrai. Bon, on riait, là. Mettons, revenez de 15 ans avant, là. Vous vous souvenez de Tanguy? Film français qui m'a fait vraiment rire. On veut que tu dégages. Le gars, il a 37 ans, il est encore chez ses parents. On s'entend que la situation aujourd'hui, le Tanguy n'est plus bien le choix. Je disais, ben oui, mais il y a le choix d'épargner. Ben oui, mais là, à un moment donné, quand les parents ne s'occupent plus de l'éducation de leur enfant qui va vers l'autonomie, dans ce sens-là, ça c'est un peu périlleux. Là. S'il n'y a pas cette culture-là de l'épargne, ou du moins du goût du risque, dans un monde où fais attention, fais ci, fais ça, fais ta passion au lieu de tes talents, tu n'en auras pas cette espèce de goût du risque, parce que c'est toujours épeurant, le monde extérieur. C'est hallucinant.
Non, c'est ça. Puis l'affaire de ne pas suivre vos passions, c'est que justement ça, je l'ai lu dans mon montage avec Yann et Frank dans le Patreon. Il avait posé la question, qu'est-ce que tu dis à un jeune justement qui veut suivre sa passion dans la vie? Puis il dit, les gens qui disent aux jeunes de suivre leur passion, c'est des gens qui sont déjà riches, qui ont déjà fait leur argent souvent dans l'industrie du fer ou quoi de fois. T'sais, en gros, c'est ceux qui ont vraiment fait un job, pas nécessairement qui aimaient, mais qui rapportaient beaucoup. Pas qu'ils regrettent par après, mais ils se disent, j'ai connu ça, oui, j'ai appris de mes efforts, puis j'ai récolté les fruits, mais je veux au moins que mes enfants ou les enfants des autres n'aient pas obligés d'être dans quoi qu'ils aiment au moins. Puis c'est vrai, écoutez, c'est pas mutuellement exclusif. Et autant que oui, il y a des jobs qui sont vraiment payants. Mon père était laitier pendant 35 ans, il détestait le lait. Là. Littéralement. Le gars ne pouvait pas en boire. Des fois, c'est pas une question d'aimer nécessairement
ça. Quand il revenait chez eux, là, ton père, est-ce qu'il se lamentait sur sa job?
Non, à part qu'il a mal au dos, là, mais pour le reste, c'est ça.
Mal au dos, je connais assez bien.
C'est ça. Fait que, ça pour dire qu'ils sont... Il y en a beaucoup moins, par contre, des jobs que à la fois rapportent et à la fois vous aimez. Good for you si vous êtes capable de combler les deux. Ça arrive.
À l'époque, ça arrive, il disait, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Mon grand-père, il nous disait qu'il avait attendu dans le fil à l'usine, travaillait pour Abitibi Consolidated Batters, bref, Stone Console à la baie, pour ceux qui connaissent ça, par Alfred. Il avait eu sa job, hein, tu sais, qu'on dit « Va porter ton nom! » T'avais ton nom avec un papier. Les autres, c'était pas « Va porter ton nom! » Attends un fil, il y avait le surintendant sur le fil qui dit « Toi, revenez demain, on va savoir si on a besoin de gars. » C'était ça. Jusqu'à les premiers boomers, quand ils allaient porter leur nom au magasin général, ben c'était ça. C'était le fils de qui? Ben, je suis un petit... Ah, OK, le fils de Bouchard. OK, moi, je vais te prendre. Tu viendras faire une semaine, si t'es bon, on va te garder. Ça, c'est plus ça. À cette heure, ils font 3 entrevues pour faire des jobs d'indépanneur. Après ça, ils s'étonneront que les gérantes travaillent de nuit ou de soir la fin de semaine. Allô? C'est pas... on comprend qu'il y a des protocoles, puis il y a les CSST, etc. Là, oui, tout à fait. Reste qu'il y a encore des accidents de travail, il y a encore des problématiques au niveau des horaires. Écoutez, on a parlé de la SAQ l'autre jour. Oui. Tu sais, combien de jobs ont ce genre de problématiques-là qui ne sont pas syndiqués? Et puis, ils ne veulent pas syndiquer non plus. Ben, c'est ça. C'est ça va pas bien. Ça va pas bien.
Non, puis l'affaire que je réfléchissais pendant que tu me jasais, pas que je t'écoutais pas en passant. je fais du double tasking. Comme
tu ouais, c'est ça.
Mais, ouais, c'est que justement, sachant qu'on est comme dans ce genre de mentalité que justement, on a fait la promotion des études supérieures, puis tout le monde. Tu sais, en gros, c'est que toutes les tu vas faire beaucoup de jobs dans ta vie, comme beaucoup, pas mal plus que ceux de tes grands-parents. Tes grands-parents, souvent, il y avait une job qu'ils ont fait, qui ont été bûcherons toute leur vie, ou élagueur, ou foreman, ou whatever. Tandis que nous, on en fait plusieurs. Mais on dit dans la vision qu'on nous a présentée, c'est que, OK, tu vas faire beaucoup de. Je dirais pas pseudo-jobs, c'est des jobs, là, bien évidemment, puis qui payent, puis tout.
Des jobs avant d'arriver à un travail ou un métier.
Ouais, ouais, puis même quand tu arrives à un travail ou un métier, tu es comme, il faut que tu arrives à l'apothéose, tes études et tout ça. Mais on a comme désappris aux gens, plutôt, on les a pas appris que, écoute, ça paraît stupide ce que je vais dire, là, ou un peu farfelu, mais des petites madames gérantes dans un jeans bleu qui sont là depuis 40 ans, ça en prend aussi, là.
Oui, les gens qui sont dans les cantines.
C'est ça, tu sais. Puis l'affaire, c'est que justement, c'est que ces jobs-là qui sont considérés comme les jeunes générations, comme des job-ins que tu ferais pas ta vie-là, que c'est juste des jobs de transition. Autant que je dis pas que tout le monde devrait être dans un jeans bleu jusqu'à la fin de ses jours. C'est pas ça le point. Simplement que faut quand même que peu importe l'étage ou le niveau que tu vas t'arrêter, il faut que tu aies une qualité de vie dignement. Puis ceux qui auront la liberté et auront pris le choix de rester sur cet étage-là, faut qu'il y ait des incitatifs qui le poussent à y rester. Parce que sinon, eux aussi vont vouloir monter plus haut, ils vont vouloir changer de place parce que pas qu'ils n'aiment pas leur job, mais à un moment donné, ça ne subvient plus. Ou justement, c'est plus envisagé comme ceux qui travaillent dans des usines pendant plus de. Tu sais, on a tous connu ça, là, des vieux de la vieille dans un IGA, que ça fait quasiment 40 quelques années qu'ils travaillent dans un Steinberg, c'est devenu IGA par après, toute la quête. On n'en verra plus bien main de ça. Oui. Là, même chose pour les travailleurs d'usine.
Fait que j'ai l'impression que c'est pas lui aussi. Hein. Il y a un luxe, c'est la réalisation de soi. À un moment donné, tu sais, on arrive à. Nos besoins physiologiques, pardon, sécurité, etc. Puis t'arrives au bout de l'échelle de Maslow, de la pyramide de Maslow, la réalisation de soi. Maintenant, on est capable de dire, est-ce que je me réalise comme personne? Mais y en a-tu aussi qui doivent penser, est-ce que je suis utile dans ma job? Il y a une guerre de crise, ça se dit pas tout à fait, là, mais il y a une genre de crise aussi qui est peut-être partie la génération X en disant, ben là, moi, je fais mon 8 à 4 dans ou 9 à 5 dans un bureau, 40 heures, des fois 50 heures. Est-ce que je parviens à être utile pour moi et pour les autres dans le cadre de ma profession, dans ma job, mon travail, appelez ça comme vous voulez. Est-ce que c'est réellement, je veux dire, si vous sondez la population canadienne et québécoise de ceux qui sont réellement heureux de leur job, je pense pas que c'est l'écrasante majorité. T'sais, en disant j'avais pas le choix. Mais c'est ça, il faut cibler le choix sans dire que. On n'ira pas dans cette espèce d'extrémité-là de faux débat de déterminisme et libre arbitre. Il faut arrêter ça. Là. Le diable est dans les détails, la nuance. La pondération. La modération. Mais ça,
c'est. Bien meilleur goût.
Hein? La pondération, la modération, meilleur goût. C'était pas. T'sais, au final, la génération X, la génération Z, puis Y, ceux qui peuvent dire qu'ils sont là pendant 20 ans, 30 ans dans un métier, maintenant, c'est tant mieux, maintenant on a le choix. Avant, les plus vieux boomers, les silencieux disaient on n'avait pas le choix. Même ma belle-mère, ça fait presque un demi-siècle qu'elle travaille dans son bureau. Est-ce que moi, je vais avoir la même chose dans mon propre cabinet? Est-ce que mes proches vont être dans ce même constat-là? Parce que maintenant, il y a le choix, il y a la concurrence, oui, mais
c'est que ça ne crée plus de fondation non plus, ça ne crée plus de racines dans ces milieux d'emploi-là qui forcent d'autres à vouloir y rester ou à comme on dit, continuer à porter le flambeau et à le donner aux autres. Si, mettons, tu es dans une job un magasin d'électronique, que le gérant, il change de gérant quasiment aux 6-8 mois, que celui qui est le plus vétéran dans toute l'équipe de 12, ça fait justement 7-8 mois qu'il est là. OK, oui. J'ai travaillé ailleurs, mais tu sais, dans le terme d'environnement, tu sais, ça en prend au moins un ou deux. Là, je parle dans les équipes réduites, là, mais tu sais, c'est sur des usines, vous ferez le calcul pour majorer ça à la bonne quantité. Là. Mais ça en prend toujours une couple que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là. Ça prend des vétérans qui sont là dans plein d'industries, qui sont dans une usine, dans un magasin, qui t'apprennent un peu ce qu'il y avait avant, qui t'apprennent les rouages, puis qui te donnent les trucs pour qu'après ça, toi et tout, possiblement, si tu décides de rester, ben, que t'en deviennes un vétéran au fil du temps.
C'est ça, les grands frères et les grandes sœurs, dans le milieu de l'emploi au Québec.
Oh. La chaîne est déraillée, sachant que justement, il n'y a plus de ressources, puis il y a de moins en moins de racines profondes là-dedans. Fait que les vétérans, c'est rendu quasiment juste, c'est rendu des compagnons. Là,
ben, c'est
là.
Que les individus, c'est une critique, notamment que les nationalistes là, disent, ou moi, les patriotistes, peu importe, là, disent que, puis ils ont raison en quelque partie, c'est que les individus sont rendus très amovibles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espèces de racines, tu le dis. Même Galloway, avec son concept de frères et sœurs, est-ce que ça, dans les entreprises, les usines, les carrières, je pense pas la majorité. Je veux dire, ceux qui décident de s'enraciner, disent « moi, je suis fier de travailler pour mon équipe », du moins, ben c'est ça, c'est mettre au boulot de dos, puis je m'en vais à la maison, puis on éteint les lumières. Les jobs, la tertiarisation de l'économie, comme disait un de nos auditeurs tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Le secteur des services, on dirait, peut-être dans les dernières générations, nous ont déshumanisé du travail qu'on avait. C'est assez inquiétant. Donc, il y a encore là l'éclatement du sens. Le sens du travail n'a plus le même impact. Sans dire que c'est la job dont le jeune va faire, c'est comme l'armée, il doit s'enraciner. Comme... Non, c'est pas ça. C'est si tu te sens amovible, puis tu te sens... inutile ou utile pour un temps éphémère, mais il va toujours en avoir de ce genre de rotation.
Ben oui, puis mon but, c'est pas de dire qu'il faut que la rotation s'arrête, puis tout le monde arrête à une place. Ben oui, tout le monde finit par arrêter à une place. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, chaque expérience de travail que vous avez vécue dans plein de domaines, vous en apprenez de ça. T'sais, chacun des boss que j'ai eu, autant les plus mauvais que les plus fun que j'ai eu, m'ont tous appris des trucs que j'applique encore aujourd'hui dans certains de mes aspects de ce que je fais dans mon travail, whatever. Mais sachant que vous êtes dans des places que les nouvelles générations voient les jobs comme plus des tremplins que nécessairement tu fais ton bout là, tu apprends un bout puis tu continues, que justement la pérennité ou l'apprentissage est beaucoup moins présent. Puis je dis pas, comme je vous dis, je veux pas limiter la liberté des gens de faire ce qu'ils veulent. Vous choisissez le domaine que vous voulez aller. Mon but, c'est pas de réduire ça ou votre capacité de faire quoi que ce soit. Simplement que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'incitation à certains de vouloir s'arrêter à certains niveaux et justement de faire le relais pour les autres qui vont uniquement être là de passage pour passer à ça. C'est que tout le monde est de passage. Il n'y a personne qui reste au poste frontière, là, entre guillemets. Là.
Il y a une affaire aussi là-dessus, c'est quand tu arrives de travailler, le téléphone, ou que tu as eu 20 ans, 30 ans, 40, même 60, tu arrives, scroll. Hein, c'est du fast-food de stimuli. On dirait que je fais ça quasiment holistiquement, là. La société veut que tu te rendes paresseux. Peut-être aller sortir marcher, peut-être aller dans le bois, d'aller faire du hiking, tout ça, d'aller avec les enfants. Non, écoute, la job qui peut-être est moins épuisante physiquement comparativement aux autres générations, elle est épuisante mentalement, puis ça, on s'en rend pas compte. C'est plus de l'épuisement, c'est plutôt de la fatigue, et cette fatigue se perdure, et à un moment donné, quand tu connais pas tes limites, tu connais pas tes frontières, et que tes parents, ou du moins les plus vieux, te l'ont pas appris, tu arrives sur le tas, et qu'il n'y a plus de sens au travail, tu vas aller chercher des stimuli, les plus faciles, les plus faciles d'accès. Et je veux dire, de prendre son char, puis de dire, je vais aller marcher en montagne avec ses enfants, du moins avec sa blonde, son chum. T'arrives, t'es mardi soir ou jeudi soir, t'es crevé parce que la job, ça dépend aussi comment tu interprètes ton énergie. Il y en a qui ce sont des sprinteurs, puis eux autres, ils veulent que ça se fasse avant tel délai, ça dépend de leur productivité et comment ils gèrent leur emploi du temps. D'autres qui sont des marathoniens, dans l'industrie, peu importe le domaine des services, t'arrives, puis là, on va écouter des affaires drôles, C'est plate en esti, là, une société de même. je sais plus, on disait « Ah, les jeunes leur cellulaire! » Quels jeunes? Les jeunes de 12 à 70 ans? Ben, c'est ça.
Ben, surtout que les plus vieilles générations voient des gars comme nous autres puis nous considèrent encore comme des jeunes. T'sais, je sais que moi, je suis à la fin, mais il m'en reste encore un petit peu, à peine.
Arrête, là, l'espèce de midlife crisis. Là,
je te parle purement d'un point de vue biologique. Je te parle pas d'un point de vue d'une vision sociétale du truc. C'est rendu à 30 ans et plus, là, je suis désolé, but you're not young people anymore. Là. T'sais, normalement, ça, c'est... T'es rendu un adulte, t'es rendu a man, a woman, un homme, une femme. Fait que t'es pas dans la catégorie des jeunes, t'es dans la catégorie des, justement, middle age.
Des plus jeunes. Pas des vieux, mais des plus jeunes.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire? T'sais, je veux dire, le start standard, là, mais tu comprends ce que je veux dire? On est...
Les années 20 à 16 ans, là, c'était le temps quasiment de fonder une famille.
Ben, c'est ça.
Ça dépend. L'adolescence n'existait pas dans les années 20. L'adolescence, ça a commencé à exister dans les années 60.
Non. Il y avait la période prénatale, puis...
La période prénatale. Hey, c'était le fun. Embryon.
Et avant ça, c'était le cuissage, puis... Hein,
hey, tu sortais du ventre de ta mère, va travailler. Voyons,
Très passé.
Hey, tu vas faire le train.
Tu fais avec le cordon ombilical, là.
Voyons, franchement, travailler. Québec lucide. Ah, tu sors du ventre de ta mère, là, puis tu t'en vas faire la messe, là, 7 jours par semaine, pour prendre 3-4 sous, là. J'aimerais ça le soir. Non, mais c'est ça, je veux dire.
Bon, on n'a
jamais
de...
été autant productif de l'histoire de l'humanité. On pourrait dire, ah, les machines à vapeur, les mines de charbon. On n'a jamais autant travaillé dans un espace d'aussi peu de temps. On parle, ah oui, mais les journées de 8 heures, puis les semaines de 40 heures. On est en train, là, de plus en plus de parler de semaines de 32 heures. Mais a-t-on le luxe de faire ça, ces 32 heures-là, dans un contexte où le pouvoir d'achat n'est pas énorme? À un moment donné, il va falloir faudrait peut-être vérifier ça. Là. Il y a des gens qui sont très productifs en 4 chiffres. Là. Dire, ah, ben, ça n'a pas de bon sens, 32 heures. Fais juste 32 heures, ça dépend ce que tu fais. Il y en a qui font des 20 heures en sprint, il y en a qui font des 40 heures en marathon. Alors, il faut faire attention aussi. Juger le monde en embarquant dans leurs souliers puis d'aller voir qu'est-ce que ça fait. Je veux dire, sincèrement, je ne suis pas un manuel. M'embarquer dans la construction, pour moi, ça me paraît illusoire. Mais j'en parle à chaque jour des gens dans la construction avec le RBQ, tout ça. Moi, je suis admiratif de ces gens-là. Mais, tu sais, chacun son métier. Chacun son métier. Puis même là, peu importe ce que tu fais, si tu aimes ça, à un moment donné, tu arrives à te fatiguer. Si tu ne connais pas tes limites ou tes principes d'énergie, tu sais, c'est exactement comme la personne qui s'engraisse puis qui ne voit pas à quel point qu'il s'engraisse, même s'il continue à manger beaucoup plus qu'il en a de besoin.
Ouais, c'est comme voyons, c'est bon, il faut que je retrouve ça dans une petite seconde.
C'est assez difficile des fois là, de dire ben, moi je suis jeune, t'arrives, quand t'arrives.
Oui, c'est le roi de chocolat d'Enfant Freluche.
Et bon, tu me rappelles les affaires, là.
Eh, hey, c'est classique, hein? Le fameux roi de chocolat qu'il mangeait, puis il mangeait.
Pourquoi tu connais ça? On a écouté les cassettes, c'est sûr.
Oh, oui, c'est ça. En fait, pour être bien franc, c'est la seule référence de Franck Frelieu, parce que Franck Frelieu, j'étais bien avant mon temps, on s'entend.
Oui,
c'est la seule référence que j'ai, c'est cet épisode-là sur l'affaire de chocolat.
C'est donc bien précis comme anecdote.
Ah ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est le roi qui mangeait du chocolat en longueur de journée, puis il est venu gros, puis Franck Frelieu, j'essaie de le sauver en essayant de boire du jus d'orange à la place.
Faudrait que Kim
Yaroshevskaya... Il finit par pouf, puis il pète!
Hey, vend pas le punch! Kim Yaroshevskaya devrait faire une version moderne. C'est le gars qui fait comme, moi là, je bode pas fatigué, c'est Gaétan. Gaétan, là, il fait 60 heures, puis il bode pas quand j'ai déjà travaillé des semaines, puis j'ai juste un dimanche. Le gars continue à refouler, puis à un moment donné, il éclate, puis il fait comme dans le film L'Enragé avec Michael Douglas. Hein, ça, c'était un bon film, ça, Joey. Il faut que tu regardes ça. L'Enragé, je sais plus c'était quoi déjà en anglais, là. L'Enragé, c'était quoi en anglais?
Ah, ben c'était avec. Je sais ce que tu veux dire, là.
C'est parce qu'à l'époque, là, c'était en 93. Je l'avais écouté en cassette. Chute libre en français, c'est quoi, là? Joel Schumacher, en plus, c'est lui qui a fait Batman.
Falling down. Tu vois, il y avait down dans le nom. Mais...
Voilà, la chute en chute libre, voilà, exactement.
Oh non,
c'est un bon film, le gars, il part, il est dans sa voiture, puis tu sais, imagine dans l'échangeur Turcot, machine à Québec, il fait 40 degrés, il n'est pas capable de baisser ses fenêtres, parce qu'à l'époque, il fallait tuer.
Alors, ça, c'est un bon film. Le ça, gars, c'est une pièce d'anthologie, ça.
Oui.
Absolument. Sérieusement, ce film-là, autant, imagine, en 93, là, justement, la technologie n'était pas là à cette heure. Tu parlais plus des gangs puis du capitaliste classique qui était vraiment un peu trop gargantuan. Imagine, il pourrait refaire ce film-là aujourd'hui avec une version, justement, 2024 avec réseaux sociaux puis les jeunes sur le cellulaire puis tout. Puis que.
Ils ont fait une autre version, si je m'abuse. Faudrait que je regarde ça.
Je ne suis jamais aussi bon que la version.
Ben originale. Non, bien non, bien
c'est
sûr.
Comme, c'est comme Sharknado. Hein,
voilà, Sharknado sont en
ou Jaws, là, tu sais, c'est tout juste le premier qui est bon. Après ça, c'est comme, oh non, il y a encore un plus gros requin. Tu sais, c'est comme.
Okay. Hey, imagine qu'on fasse une émission de fin de soirée qui s'appelle Parle, Parle, Jaws, Jaws. On est habillés tous les deux en requin.
Ou on fait on s'habille en sol et gobelet.
On a vraiment des idées vraiment loufoques.
Ouais, je sais, je change vraiment ce qui sort.
Écoute, on est lundi, là, on casse la semaine, là. On casse la semaine. Bon, est-ce que je vais dire des niaiseries vendredi soir si je fais ça? Oui. Bien évidemment. Je veux dire, à un moment donné, casser cette espèce de rigidité cadavérique d'un podcast. Pas Radio-Canada, c'est un podcast en live. Il y a des gens qui font « Ah, oh, vous avez dit des... » J'ai échappé mon téléphone, voilà, sans filet. Il y a des gens qui disent « Ah, oh, si vous étiez plus préparé, il y aurait moins de E. » C'est un live, gang de...
Gang de bref. E.
Gang de E. Non, mais on fait du temps sur un sujet.
Vous voulez vraiment, sérieusement, vous préférez vraiment plus avoir des genres d'éditoriaux à la Europa, là?
Oui.
Alors, mon cher Mathilde, la politique de la présidente de l'Union européenne était vraiment impuissante. Oui, en effet. Elle était vraiment dans cette superbe logorée de la, voilà, en plein milieu de la Chambre des représentants.
Et logorée, tu l'aimes, ce mot-là.
Ils lisent le chronique. Ils ont des textes. Même l'animateur a son texte.
C'est culturel.
C'est poche à écouter, sérieux. C'est une...
Il n'y a pas
on
de nature.
Narration. C'est tellement dole.
Ils sont poignés du cul. Regarde, oui. On l'est pas, là. Et c'est ont, sûr, on fait des erreurs.
Le pire, c'est qu'ils ont 15 recherchistes en arrière. Peut-être pas 15, mais tu sais, au moins 2, 3. Tu te dis tabarouette.
À peu près.
Oh,
imagine. Il y a du monde qui ont. Il y a des jobs.
Il y a
plus
des E, puis oui, ça se peut que je le dise, le si j'aurais. Oh, mon Dieu. Ça...
Hey, écoute, je vais t'envoyer l'OQLF, là, tu vas voir. Là, puis l'Académie française, c'est épouvantable. Non, mais l'important, c'est qu'on se comprenne, n'est-il pas? C'est ça. Le langage est aussi pour ça, oui, mais l'erreur, c'est alors, sur le fond et non pas la forme. C'est ça qui
autant que j'en ai moins vu, mon début, c'est ça, là, quand j'avais starté avec Anne Frank, là, les commentaires, là, que Joey, je t'aime beaucoup, mais n'oublie pas, Lissi, mange les raies. J'avais quasiment le goût de le dire, mais c'est ça, mange ma raie. C'est sérieusement, là. Non, mais je suis mal fait dans la vie, je suis désolé, là. Mais regarde, on l'a vécu durant la pandémie un peu, là, mais moi, je suis mal fait dans le sens que si tu me dis de ne pas faire de quoi, je vais le faire trois fois plus.
C'est toute une question de priorité aussi. L'important,
c'est pas d'être borné et de ne pas vouloir m'améliorer. Je sais que je ne suis peut-être pas le gars qui parle avec en mode Danny Laferrière puis en Académie de la langue française, mais...
C'est quoi ce qu'il dit, lui, là? C'est...
J'essaie de m'améliorer, puis tout.
Cédric, qu'est-ce qu'il dit, là? PH? Ouais, c'est un petit peu du... Je ne sais pas, là, c'est un peu comme quelqu'un qui fait le Afuera.
C'est quoi, il fait un anagramme ou quoi, là?
Je ne sais pas, j'ai beau lire du... O-U-E-I-S-P-H-E.
C'est marqué Louis P-H-E. 1984, Louis P-H-E.
Ah, Louis-Philippe? Louis-Feu.
Louis-Feu.
Il n'était pas là ce soir, puisqu'il ne pouvait pas être là non plus. Mais je veux dire, bon, on peut reprendre ça, là. Oui, Louis-Philippe.
Non, c'est ça. Ben, il m'envoie des messages aujourd'hui, il n'arrête jamais, comme vous savez, notre cher prophète productif. Mais
c'est merveilleux.
Ça. Chacun, on va lui pardonner de ne pas être ici ce soir.
J'ai des cinquantaines de messages pas lus.
Si ça se trouve, Julien Cardinal nous écoute encore cette semaine.
Ben, on le salue bien bas. Écoutez, ouais. C'est ça. Voilà. Donc, changement de culture. Allez voir le Mr. Galloway, qui est professeur en marketing à l'Université de New York, je pense.
NYU.
NYU, exactement.
C'est ça marqué. Sérieusement, écoutez ça, ça dure 17 minutes, mais c'est vraiment écœurant, si vous connaissez bien votre anglais. Là. Scott Galloway,
oui. TED Talk, the US c'est... is pestering young people's future. Scott Galloway, c'est une conférence TED. Merci beaucoup, Joey.
Puis il sort beaucoup de stats, puis je pense que pour les auditeurs de Yann et Frank, que je sais déjà que vous êtes très... Vous en mangez au petit déjeuner du stat, là, à grands coups de céréales et de bon lait, 2%. Ben, c'est ça. Allez-y.
Non, bon, moi, pas dans la gestion de l'offre, là. On en a pour 3-4 heures encore.
Alors, surtout que moi. Alors, je sais.
Lundi soir.
On va, caller Maxime Bernier pour qu'il fasse une boutade là-dessus.
Oh non, vaut mieux pas lui. Ça va être autre chose. Il y a d'autres personnes intéressantes, là.
Yes, sir. Fait que merci beaucoup tout le monde. Un bon débrief en cette semaine. On va être de retour si tout se passe bien la semaine prochaine. Par contre, l'autre semaine d'après, je ne serai pas là. Pas la semaine prochaine, l'autre d'après, parce que je vais être à Montréal pour un séminaire Leadership and Liberty de l'Institut économique de Montréal. Donc, ça va être sans doute Frank qui va me remplacer. Il est fort possible que ce soit ça. Mais encore là, dans deux semaines. Fait que pas de suite. Encore, on va pogner avec moi pour les prochaines semaines.
Bonne soirée à tout le monde. Puis merci encore, Joey.